SBS Radio.
Les grands titres de l'actualité de ce jeudi 30 août 2018. Un gigantesque incendie s'est déclaré ce matin dans une usine du quartier de West Footscray à Melbourne. Les fumées dangereuses sont toxiques. Le quartier a été bouclé. Les pompiers sont près d'une centaine à essayer de maîtriser le feu. Don McGahn, qui a, je cite, « largement coopéré avec l'enquête sur les soupçons d'ingérence russe dans la campagne présidentielle », quittera son poste à l'automne, a annoncé ce mercredi le président américain sur Twitter. Et puis en Tunisie, une affaire de viol collectif et d'enlèvement secoue fortement le pays. En Australie d'abord, dans la banlieue ouest de Melbourne, un incendie gigantesque s'est déclaré et les fumées dégagées sont toxiques. Les pompiers doivent faire face à des explosions alimentées par de l'acétone et du matériel de soudage stocké dans les installations de West Footscray. Selon Ken Brown, pompier en chef, ils sont plus d'une centaine de pompiers à tenter de maîtriser l'incendie. On l'écoute.
So we've got about 30 trucks here, including the aerial appliances like the cherry picker type trucks, and we've got about 120 firefighters here, so we'll maintain a presence until we bring this under control and then we'll scale it down. But what we're trying to do is work with businesses in the area to make sure the impacts are minimised as well.
Le Premier ministre Scott Morrison refuse de dire s'il soutient ou non une interdiction à Chelsea Manning d'entrer en Australie pour des raisons de genre. Le soldat transsexuel devenu femme a également passé 7 ans derrière les barreaux pour avoir envoyé près de 750 000 documents classifiés à Wikileaks. Manning devrait venir en Australie et en Nouvelle-Zélande pour donner des discours au cours d'événements, mais sa condamnation pénale permet au ministre de l'Immigration, David Coleman, de refuser son entrée. Scott Morrison discutera avec Coleman, mais seul ce dernier pourra prendre une décision.
I'll discuss that with the Minister for Immigration. They're matters actually which are decided specifically by the Minister for Immigration. I used to be a Minister for Immigration, and the powers on those things rest specifically with that Minister. So it actually wouldn't. It's actually not my specific responsibility to do that. As Prime Minister, of course, you oversee the whole policy area, but I know the legislation very well. This is a personal decision of the Minister for Immigration.
Et puis de son côté, l'organisatrice de la tournée, Suzy Jamil, a déclaré à la ABC que Chelsea Manning ne représentait aucune menace. On l'écoute.
Absolutely not. Chelsea is so far from a risk to the Australian public. She is coming here to abide by the laws, to share messages about her story.
Le ministre de l'Intérieur, Peter Dutton, a déclaré qu'il maintenait sa décision d'utiliser ses pouvoirs ministériels pour permettre à une fille au pair de rester en Australie. Il a également été récemment révélé qu'il était intervenu pour sauver une autre fille au pair de la déportation après une demande du patron de l'AFL, Gillon McLaren. Une troisième fille au pair prévoyait de travailler pour le deuxième cousin de McLaren, dont le père a donné environ 150 000 dollars au Parti libéral. Peter Dutton a déclaré à la radio 2GB qu'il avait pris la décision de permettre à la troisième fille au père de rester en Australie seulement car son cas était légitime et non grâce aux relations. On l'écoute.
I looked at it and thought, look, it's a bit rough. There's no criminal history. She's agreed that she wouldn't work while she was here. As I understand it, she never overstayed the visa, hasn't committed any criminal offences, and I thought it was an application of common sense. Now I've got lots of enemies in the media running around at the moment trying to get square for recent events and the rest of it. They can run all of this nonsense. The Greens have set up some dodgy Senate inquiry. Let them play their games. For me, there are lots of important issues to concentrate on.
Aux États-Unis, le président Donald Trump a déclaré que l'avocat de la Maison-Blanche, Don McGahn, quittera son poste dans les prochains mois. Son départ fait suite à un malaise à la Maison-Blanche à propos de la coopération de M. McGahn avec l'enquête sur l'ingérence présumée de la Russie dans l'élection présidentielle de 2016. McGahn aurait accepté 3 entretiens totalisant 30 heures avec les enquêteurs du ministère de la Justice. Et le New York Times a indiqué qu'il avait beaucoup coopéré avec le conseiller spécial Robert Mueller. Donald Trump a annoncé le départ de McGahn sur Twitter, qui a apparemment surpris l'avocat de la Maison-Blanche puisqu'il n'en avait pas discuté avec le président. Monsieur Trump dit que McGahn avait tout de même fait du bon travail. On l'écoute.
John McGahn's a really good guy.
Been with me for a long time. Privately before this, he represented me. He's been here now. It'll be almost 2 years. And a lot of affection for Don. And he'll be moving on, probably the private sector, maybe the private sector. And he'll do very well. But he's done an excellent job.
Le chef sortant des droits de l'homme des Nations Unies a averti le président américain qu'il porterait une certaine responsabilité si des journalistes étaient blessés à la suite de ces attaques contre les médias. Zeid Raad al-Hussein sera remplacé par l'ancienne présidente chilienne Michelle Bachelet après l'expiration de son mandat de 4 ans à la fin de ce mois. S'exprimant à Genève, il a réitéré ses préoccupations concernant les critiques inquiétantes de M. Trump à l'encontre des médias, en particulier à la lumière des prochaines élections. On l'écoute.
All of us would be horrified, but perhaps not so shocked if we heard of a journalist that was attacked and severely beaten, for example, at one of the rallies. And for that, the president would bear some responsibility.
Et les suites du FIFA Gate, 3 ans après le scandale de corruption de grande ampleur, l'un des responsables a écopé de 9 ans de prison. C'est la plus lourde sanction décrétée dans cette affaire. Cédric De Oliveira pour RFI.
Que les prisonniers du pénitencier fédéral de Brooklyn se rassurent, Juan Angel Naput va pouvoir continuer à leur faire la cuisine encore longtemps. Excellent dans ce domaine, d'après ses camarades de cellule, le Paraguayen va purger une peine de 9 ans de prison. Le verdict final du procès new-yorkais qui avait déterminé en décembre la culpabilité de l'ex-président de la Fédération paraguayenne, mais aussi ancien patron de la puissante Confédération sud-américaine de football. Il lui est reproché d'avoir touché illégalement des millions de dollars par l'intermédiaire de sociétés de marketing sportif en échange des droits de retransmission télé et de promotion de tournois du continent sud-américain. Le procureur général avait requis une peine de 20 ans minimum. Naput devra donc finalement passer 9 derrière les barreaux, soit la sentence la plus lourde prononcée par la justice américaine dans cette affaire. Le Paraguayen a aussi été condamné à une amende d'$1 million et il devra restituer plus de 3 autres millions qu'il a touchés en pot de vin. Au total, 42 anciens responsables ont été jugés coupables dans cette affaire, mais certains ont réussi à éviter leur extradition aux États-Unis, à l'image de l'ancien vice-président de la FIFA Jack Warner ou encore Marco Polo Del Nero, toujours en liberté au Brésil, même s'il a été exclu à vie de toute activité dans le football.
En Tunisie, une affaire de viol collectif et d'enlèvement secoue fortement le pays. Les faits se sont déroulés le week-end dernier à 1 heure de la capitale dans le gouvernorat de Béja. La ministre de la Femme et de la Famille s'est rendue hier au chevet de la famille de la victime. Le récit à Tunis de Michel Picard pour RFI.
Le soir était tombé lorsque 5 individus ont fait irruption à 1 heure de route de Tunis dans une petite maison de Goubella. Les intrus violent les 3 occupantes, une fille de 15 ans qu'ils enlèvent ensuite, sa mère et sa grand-mère. L'octogénaire a succombé à ses blessures. Retrouvée 3 jours plus tard dans un état critique, l'adolescente a été violée à de multiples reprises durant sa détention. Elle est, comme sa mère, hospitalisée. La police a rapidement ouvert une enquête et mis la main sur les agresseurs, parmi lesquels figure le cousin de la jeune victime, un policier habitant le quartier et 3 membres d'une même famille. Un différend entre ces deux familles serait à l'origine de ce déferlement de violence. Déjà, plusieurs associations ont fait entendre leur voix pour réclamer l'application stricte de la loi sur l'élimination des violences faites aux femmes. Le texte, pour l'heure peu suivi, adopté durant l'été 2017, prévoit jusqu'à 20 ans de prison pour l'auteur d'un viol et la perpétuité en cas du viol d'un enfant de moins de 16 ans.
Dans un rapport accablant des Nations Unies sur le Mali, rendu public ce mercredi, dans ce document de 71 pages, non à la pluie, à l'appui, un groupe d'experts indépendants de l'ONU sur le Mali dénonce notamment l'implication de groupes armés signataires de l'accord de paix d'Alger en 2015 dans les attaques terroristes et la criminalité organisée au Mali. L'accord de paix d'Alger avait été signé dans le but de mettre fin au conflit dans le nord du Mali. Autre révélation de ce rapport, les membres des groupes armés signataires donc de l'accord d'Alger seraient impliqués dans des trafics de migrants, des trafics de drogue ou encore du recrutement d'enfants. L'immigration sera un sujet majeur lors des prochaines élections européennes. Ce sera à la fin du mois de mai 2019. Et à ce propos, 2 camps s'opposent et ils ont été résumés par le Premier ministre hongrois, Viktor Orban. L'un est dirigé par Macron, à la tête des forces politiques soutenant l'immigration, ce sont ses mots. De l'autre côté, ajoute-t-il, il y a nous qui voulons arrêter l'immigration légale. Dans ce « nous », il y a aussi Matteo Salvini, le ministre intérieur italien. Tous deux étaient réunis à Milan. De Copenhague, où se trouvait le président français, leur a répondu « S'ils ont voulu voir en moi leur principal opposant, ils ont raison ». Fin de la citation. Ce mercredi, Emmanuel Macron s'est envolé pour la Finlande. En sport maintenant, rapidement, et en tennis, l'Australienne Daria Gavrilova a été éliminée lors du deuxième tour de l'US Open, 6-1-6-2 à Flushing Meadows. Azarenka affrontera ensuite la troisième championne en titre, Sloane Stephens. Et un rapide coup d'œil maintenant sur la météo d'aujourd'hui. Un risque de légère pluie avec 17 degrés pour Perth. De la pluie avec une température maximum de 20 degrés pour Adélaïde. Pareil, un peu de pluie, rare tout de même, avec 14 degrés pour Melbourne. Plutôt ensoleillé et quelques averses possibles en fin de journée. 15 degrés pour Hobart en Tasmanie. Nuageux et 16 degrés à Canberra. Du soleil 17 degrés à Wollongong. La même chose avec 18 degrés pour Sydney. Conditions similaires, du soleil 19 degrés pour Newcastle. Du soleil également avec 24 degrés pour Brisbane. Du soleil aussi 28 degrés pour Cairns. Et un temps d'été avec du soleil et 31 degrés pour Darwin. Et enfin la bourse, aujourd'hui avec un dollar australien, vous avez 0,71 US dollars, 0,59 euros et 0,53 livres sterling. Et un rappel des grands titres de l'actualité de ce jeudi 30 août 2018. Un gigantesque incendie s'est déclaré ce matin dans une usine du quartier de West Footscray. À Melbourne, les fumées dangereuses sont toxiques, le quartier a été bouclé. Les pompiers sont près d'une centaine à essayer de maîtriser le feu. Don McGahn, qui a, je cite, « largement coopéré avec l'enquête sur les soupçons d'ingérence russe dans la campagne présidentielle », quittera son poste à l'automne, a annoncé ce mercredi le président américain sur Twitter. Et puis enfin en Tunisie, une affaire de viol collectif et d'enlèvement secoue fortement le pays.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.